Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Le roi des pirates est une reine, et ce sera nous. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Fatima Wasek à l'occasion de la parution de son ouvrage « Pour une écologie pirate et nous serons libres » aux éditions La Découverte. C'est parti. Bonsoir Fatima.
Bonsoir.
Nous avions eu la chance de découvrir ton livre « La puissance des mers » pour un nouveau sujet révolutionnaire. Avec « Pour une écologie pirate », on est donc sur ta deuxième étape de révolution. Et la troisième, sur une organisation de société. Ce principe de trilogie, moi, il m'interpelle. Tu l'avais déjà en tête quand tu as écrit La puissance des mers ?
Oui, parce qu'alors depuis le départ, il y a deux ambitions. La première, travailler à une conscientisation des quartiers populaires, à outiller les quartiers populaires, j'ose le mot, à armer les quartiers populaires, les armer politiquement. Et la deuxième ambition, c'est de définir un projet écologiste. Bon, c'est quand même une ambition assez, assez importante, d'autant plus que l'idée, c'est d'articuler plusieurs lutte, plusieurs perspectives, alors la lutte antiraciste, la lutte féministe, la lutte anticapitaliste, internationaliste, anticoloniale, enfin, y a quand même beaucoup de choses à articuler, entre guillemets, rendre tout ça accessible. Et en écrivant le premier, en fait, j'ai passé mon temps à évacuer des questions, des exemples, en me disant, mais je mettrai dans le deuxième ou dans le troisième. En écrivant le deuxième, pareil, en fait, je me suis dit, bon, il y a des choses qui ne rentrent pas dans cette manière assez schématique, en fait, d'amener les choses. Enfin, j'essaie quand même de faire quelque chose relativement cohérent, j'espère. Et je me disais, bon, ça sera dans le troisième. Et oui, et là, je commence à écrire le troisième, et c'est compliqué, parce que alors là, du coup, je n'ai plus aucune chance, en fait, de... Du coup, et ça me fait penser, enfin, je suis très série. À ces séries en fait qui durent et où on se dit mais il y a plein de portes qui s'ouvrent en fait, et j'espère que j'aurai pas la même fin que Lost, je sais pas si vous connaissez, où vraiment ça finit super mal quoi, enfin parce que y a tellement de portes qui ont été ouvertes que en fait bon, les scénaristes n'ont pas réussi à tout refermer. Bon, j'espère que j'aurai un peu plus de portes fermées avec le troisième, et normalement avec le troisième, voilà, j'aurai à peu près fait ma part sur une participation donc à la conscientisation des quartiers, et puis un projet écologiste du point de vue des quartiers populaires, et qui arrive à articuler les luttes que j'évoquais tout à l'heure, antiracistes, féministes et anticapitalistes.
Qui est très mignon, si tu me le permets. C'est la façon dont tu décris cette trilogie, donc tu parles d'elle comme sujet, verbe, complément, dans la mesure où les mères... Sujet révolutionnaire, verbe, donc l'écologie pirate, on va vite y arriver. Et puis bon, le complément, on a bien compris qu'on en saurait plus, même si tu es déjà en train d'écrire, je suis assez impressionnée de ton efficacité, parce que là, pour le coup, tu y vas. Et en même temps, cette niaque, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça, de très fort et très puissant, on le ressent dans ton écriture. Mmh. Et ce qui fait qu'on ne te lit pas de la même manière, en fait, que des essais habituels qui peuvent être parfois sur un ton, je dirais pas d'une neutralité, mais quelque chose d'assez posé. Ici, et ce que j'ai retrouvé avec grande joie dans Pour une écologie pirate, c'était ce même ton, en fait, de manifeste que tu avais dans La puissance des mers, que tu as dans La puissance des mers. J'imagine que ton endroit d'écriture, en fait, il doit être hyper foisonnant. Enfin, je te vois vraiment avec du feu qui sort du stylo, quoi. Bon, évidemment, l'image du dragon n'est pas loin. C'était avec... voilà, c'est ça. Mais d'avoir quelque chose d'extrêmement passionné, en fait, dans ce que tu écris, très incarné même.
Oui, bah alors j'écris comme une militante politique. C'est parce qu'effectivement, je milite là où je vis. Je milite dans des organisations, d'ailleurs, politiques. Et donc, ça donne ce ton très militant, en fait, où j'essaie de convaincre, j'essaie d'amener, et je ne me contente pas simplement d'analyser. Donc effectivement, il y a de ça, il y a ce manifeste dont tu parles, parce qu'il faut essayer de convaincre. Moi, je sais bien que ce que je dis n'est pas majoritaire, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, y compris dans les quartiers populaires, d'ailleurs, parce que je m'adresse aussi aux quartiers populaires. Je sais bien que dire, de défendre telle perspective féministe, de défendre l'idée qu'il faudrait fermer les élevages industriels, par exemple, faire des villes sans voiture, ben, c'est pas quelque chose de si populaire que ça, y compris dans les quartiers populaires. Mais d'ailleurs, ça n'est pas plus populaire dans les quartiers pavillonnaires ou ailleurs. Mais... Donc vraiment, moi, j'assume ce côté minoritaire, marginal. Et donc, il y a besoin d'aller convaincre, effectivement, d'aller tirer par la manche, en fait, le lecteur, la lectrice, quoi. Donc effectivement, c'est ce qui donne ce ton-là.
Donc, on le voit dans ton titre « Écologie pirate ». Je le disais, pour La puissance des mers, c'est l'image du dragon, en fait, que tu appelais. C'est assez malin, en fait, de passer par une image extrêmement populaire, en même temps, qui n'est peut-être pas forcément autant présente, en fait, dans nos imaginaires actuels. C'est beaucoup les enfants, en fait, qui connaissent les dragons et les pirates. Et de là, en fait, faire une force... C'est vraiment dans ta continuité de réenchanter, en fait, une façon de parler de ces engagements-là. L'image de l'écologie pirate, tu l'avais immédiatement. Enfin, ça a toujours été quelque chose pour toi, comme avec les dragons et les mers des quartiers populaires.
Oui, parce que j'ai, j'ai grandi avec cet imaginaire-là. Donc, alors, c'est malin. Mais sincère, en fait. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la... Presque de la stratégie, en fait, pour amener les choses, des sujets qui ne sont pas si accessibles. Alors, en tout cas, l'écologie auprès des classes populaires, elle n'est pas si accessible, justement. C'est ce que je lui reproche. Elle se donne à voir comme étant très technique, quelque chose qui ne serait accessible que pour des experts, qui comprendraient les questions liées à l'énergie, etc., etc. Donc, il fallait, en fait, rendre tout ça populaire. Bon, moi, je me suis pas... j'ai pas été chercher bien loin. Moi, ces figures-là, les dragons, les pirates et d'autres, sont des figures que vraiment qui me portent, quoi. Enfin, je veux dire, je pense à un univers assez enfantin. Je suis restée vraiment bloquée sur Tolkien, sur des... Voilà, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, les séries. Souvent, c'est des séries avec des dragons, les Game of Thrones, etc. Moi, je suis toujours la première cliente. Parce que alors, tout à l'heure, tu parlais de cette écriture un peu énervée, engagée. C'est aussi lié à mes conditions matérielles d'existence. Moi, je suis maman. Et que je ne peux pas prendre comme ça 3 ans pour écrire un livre dans la Drôme. avec, voilà. Non, moi, j'écris dans le béton. À Bagnolet, j'ai mes enfants à gérer, le travail, le militantisme. Et donc, en fait, c'est sur du temps très court, intensif. Hein, c'est des nuits blanches, et mais c'est du temps court. Et donc, je pense que ça donne un peu ce côté énervé, en fait. Parce que l'écriture est rapide, en fait. J'ai pas trop le temps de revenir sur chaque phrase. Et cet imaginaire-là, moi, je fais le pari qu'en fait, c'est ce qui peut, dans un contexte très anxiogène, porter, en fait, mobiliser. Parce qu'encore une fois, moi, je veux convaincre les gens de rejoindre un front. Alors, en l'occurrence, dans celui-ci, c'est le front écologiste. Donc de lutte contre le réchauffement climatique, la montée de l'extrême droite, notamment. Et il faut donner à voir, en fait, l'idée que la lutte, bah, c'est quelque chose de beau, de joyeux, que c'est une aventure, en fait. Et les pirates, bon, c'est autour de cette idée de liberté. Effectivement, les pirates, c'était moins présent au moment où j'écrivais La puissance des mers évidemment que les dragons. Mais alors, ce qui est passé entre les deux, c'est le Covid, tu l'as rappelé tout à l'heure. Moi, vraiment, alors ça a été, je ne sais pas, on pourra peut-être en discuter ensemble, mais ça a été vraiment un petit traumatisme, comme pour beaucoup. Et je crois que on le ressent ça dans le livre. C'est-à-dire que je parlais beaucoup d'égalité dans le premier. Je parle quasiment plus d'égalité dans le deuxième. Ou alors l'égal dignité humaine, mais pas l'égalité de traitement, l'égalité des droits, qui sous-entend en fait le fait que c'est limité par des frontières, la France, la société, l'Europe, etc. Là, j'explose ça avec cette idée de liberté de circuler, justement pour prendre le large, en fait. Et on sent, en fait, la personne qui s'est dit, mais comme beaucoup dans les quartiers populaires qui vivent en HLM, dans des immeubles, et des personnes qui se sont dit, mais quel luxe le balcon, en fait. Pendant des périodes de confinement où il n'y a pas de maison de campagne, où il n'y a pas des territoires qui ont été particulièrement réprimés avec des amendes, des PV, et ça, c'est documenté. C'est-à-dire, c'est plutôt dans les quartiers populaires que dès qu'on mettait un pied dehors, bim, amende. Il y a un front de mer, par exemple, à Rennes, et là-bas, elles militent, les maires qui militent là-bas, pour que des jeunes de 20 ans, 20-21 ans, ils avaient 18 ans à l'époque, pour qu'on leur fasse sauter leurs 20 000, 30 000 euros, parce que ça s'est accumulé, et puis ils ont développé un rapport aux amendes qui laissaient traîner, et ils démarrent leur vie avec 30 000 euros, quoi. Donc on sait que ce sont des endroits où on a été particulièrement entravés dans la liberté de circuler. Moi, c'est une alerte, en fait, pour moi, cette séquence-là, parce que moi, je ne nie pas, en fait, l'urgence qu'a constitué cette pandémie, le Covid. Il y a un livre de Marie-Monique Robin qui est paru quelques mois après aux éditions La Découverte, où elle montre, en fait, que c'est la pandémie en 2020, mais que c'était déjà des pandémies pendant plusieurs décennies passées, mais voilà, ce qui risque d'arriver va être pire. Et donc, c'est pas quelque chose que je nie. Au contraire, je m'en inquiète. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est plutôt la manière dont les autorités, en fait, gèrent des crises. Donc, que ce soit des crises sanitaires ou des crises climatiques, demain et après-demain. Et notamment, la manière dont on gère, ce qu'on fait, en fait, avec nos libertés fondamentales. Et cette liberté-là, en particulier la liberté de circuler, c'est-à-dire la politique que l'on va défendre, elle va se faire du point de vue, plutôt, c'est ce que j'essaie de montrer, des classes moyennes supérieures, blanches, et le point de vue, la manière dont les classes populaires vont vivre en fait la crise, ça va être très 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 secondaire. C'est-à-dire que le fait qu'on étouffe littéralement dans des quartiers parce qu'il fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver, parce qu'on respire mal, parce que les enfants respirent mal, parce qu'on est privé de liberté et que sans liberté on ne peut pas vivre, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas juste de manger, dormir, c'est vraiment cette manière très méprisante et misérabiliste en fait qu'on a de voir les classes populaires et les quartiers populaires en particulier. Non, on a besoin de liberté aussi en fait, pour vivre et pour survivre. Et tout ça est balayé d'un revers de main, on l'a vu en 2020. Et donc, voilà, c'est pour ça, je pense que c'est ce qui fait la différence, et c'est pour ça que tout à coup, la piraterie, c'est la soif de liberté. Bon, moi, il se trouve que je suis fan de One Piece depuis le début. Et donc, il y a quelque chose que j'ai retrouvé. Alors, je ne sais pas si c'était si présent, la liberté de circuler, dans le manga. Donc, tout le monde connaît One Piece, le manga One Piece. Donc, qui est le manga le plus vendu de tous les temps. Et je ne sais pas si c'est la liberté de circuler qui était tellement présente dans One Piece que, bon, de manière évidente, en fait, je l'ai amenée dans ce livre, ou l'inverse, tellement je suis fan de One Piece. Mais en tout cas, voilà, ça s'est imposé comme ça. C'est-à-dire la liberté, la soif de liberté pour des personnes qui sont emmurées. Et donc, c'est toute la perspective fanonienne, en fait, autour des damnés de la Terre. Donc, moi, je les appelle les emmurés de la Terre. Et je trouve que la piraterie, en fait, elle amène ça, en fait. Elle renvoie à cet imaginaire enfantin, mais encore une fois, on est adulte, on peut aimer les pirates et cet esprit pirate. Et puis le faire sécession, le fait de d'aspirer à quelque chose d'infini aussi. Enfin, il y a aussi quelque chose dont je me suis rendu compte avec celui-ci, mais alors une fois écrit. C'est à quel point, en fait, il y avait aussi une tension entre que j'ai essayé de régler dans le livre, entre notre volonté de nous ancrer dans de la terre, et donc y compris dans les quartiers populaires. Donc je parle de ce besoin de terre, y compris pour des personnes qui sont considérées comme sans terre. Et donc vraiment, le fait de regarder le sol, en fait, et je me suis souvenue, et on peut se souvenir ensemble, à quel point, quand j'étais enfant, en fait, je regardais pas du tout la terre. Moi, je voulais être cosmonaute, par exemple. Et j'avais plutôt tendance à regarder le ciel. Ça. Et j'ai l'impression que c'était plutôt ça, notre imaginaire enfant. C'était plutôt regarder les étoiles, en fait, et la lune, et l'infini, et Dieu, et quelque chose de transcendant, etc. Et que, bah, de fait, oui, on est obligé de regarder de plus en plus vers par terre, en fait, vers la terre, bah, parce que c'est chaud, en fait. Il y a une urgence climatique, et que, oui, il y a la question de l'extractivisme, la question des combustibles fossiles, la question de notre survie, en fait, la survie du vivant, de l'humanité. Mais c'est dans quelle mesure on perd des choses, en fait, en ayant la tête vers le sol, quoi. Et c'est comment, en fait, on arrive à concilier les deux. L'ancrage territorial, c'est toute la question écologique, mais en même temps, le côté pirate, c'est vraiment ces trois enfants pirates dont je parle, donc ces trois enfants pirates de One Piece, et qui sont face à la mer, face à l'océan, et qui aspirent, en fait, à devenir pirates un peu plus tard, à l'âge adulte. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment les étoiles, en fait. Donc oui, je pense que c'est malin, en fait, de l'amener comme ça, parce que, oui, on est à un moment où il faut rêver pour lutter, parce que tout pousse, en fait, à l'isolement, tout pousse à se résigner, en fait.
Tout de suite, j'ai parlé de cet univers enfantin, mais je pense qu'en vrai, on peut utiliser cette idée du merveilleux, en fait, comme outil d'ouverture d'esprit et de respiration. Parce que quand on cherche à sortir, en fait, des imaginaires coloniaux et capitalistes, il va falloir qu'on imagine d'autres façons, en fait, de s'en sortir, ou d'imaginer rien que l'idée de s'en sortir. Cette idée, en fait, de la mer, de choses qui nous éloignent un maximum de qui nous sommes, c'est vraiment le retour du vivant, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que ton livre, en fait, tu vas vraiment le parsemer de cette écriture merveilleuse, on va l'appeler comme ça, notamment, en fait, tes ouvertures de grands chapitres. Il y a une scène dialoguée, alors, qui n'est pas en tant que telle de la science-fiction du merveilleux, c'est juste un père et sa fille qui parlent, mais dans un essai, avoir un dialogue comme ça, c'est déjà, en fait, une sorte de contre-attaque. Tu vas avoir des chants qui vont venir s'immiscer, en fait, dans tes paroles. Et à la fin, quand tout est terminé, quand ton essai est terminé, en fait, tu proposes un conte. Mm-hmm. Tu plonges dans les façons dont on raconte les histoires aux enfants ou les contes de toutes les cultures, en fait, la façon dont l'oralité vient s'emparer des grands sujets de société. De dire, donc, on n'est plus avec des mots de tous les jours, on n'est plus avec les quartiers populaires, on n'est plus avec la France, l'Europe, etc., ou les quartiers pavillonnaires, on est avec un gars, évidemment, qui se dit, mais une pièce d'or, c'est pas suffisant, eh ben, venez m'aider, vous, là-bas, au loin, je suis sûre que ça vous ferait plaisir d'avoir des choses qui brillent comme ça, nanana. Ce conte, nous savons que tu as des enfants, à qui est aussi dédié tout ce travail. Tu t'as construit avec eux, peut-être même, ce conte.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que le livre leur est dédié, parce que bon, c'est aussi le temps que j'ai passé à l'écrire, et ça, c'est moi, c'est typique de moi, je sais, parce que c'est aussi un sacrifice, en fait, de temps que passer avec les enfants, en fait, de fait, et c'est le fait de leur dire une fois que le livre sera terminé, on fera ceci, on fera cela, etc. Donc bon, la moindre des choses, c'était au moins de dédier le livre. Et puis c'est aussi parce que je crois que c'est parce que c'est l'écologie, en fait, et moi, vraiment, je défends, y compris en tant que militante, une écologie à hauteur d'enfant. D'ailleurs, il y a un chapitre qui est consacré à la ville à hauteur d'enfant, la ville des enfants, la ville aux enfants, avec cette chanson de Anne Sylvestre, que je trouve très belle. Donc voilà, je voulais m'appliquer à moi-même, en fait, ce que je disais de l'écologie. C'est-à-dire, effectivement, il y a un essai politique, mais effectivement, tu l'as très bien dit, c'est l'essai politique à hauteur d'enfant, en fait. C'est-à-dire, si je devais raconter à tout le monde, mais y compris aux enfants, c'est-à-dire que le conte, je ne l'ai pas écrit uniquement en direction des enfants, mais je me suis dit, voilà, il y a les enfants aussi, en fait, on ne va pas les semer là dans les forêts, dans les parcs et tout, et puis rester entre adultes. Je veux dire, l'écologie, on ne va pas régler le problème aujourd'hui, voilà, et évidemment que c'est sur des années, des décennies, étant donné le chantier, en fait, qu'on a là devant nous. Et donc, oui, il faut amener nos enfants avec nous, et pas juste quand ils sont adultes, en fait. On leur dit, ah, tout à coup, ils ont 18 ans, c'est bon, ils sont majeurs, on peut leur expliquer c'est quoi le capitalisme, c'est quoi l'impérialisme. Je veux dire, non, c'est depuis qu'ils sont petits, en fait, qu'ils peuvent avoir envie, en fait, de lutter, quoi. Alors, même le mot lutter, il peut paraître comme ça dur pour les petites épaules fragiles des enfants. En même temps, ça peut se faire, effectivement, dans quelque chose de joyeux. Il y a aussi dans ce conte, en fait, la volonté de donner à voir aux enfants d'autres, un autre récit, d'autres réflexes, y compris dans quelque chose de très sensible, en fait. Et c'est en réponse, en réaction avec ce que je peux décrire, notamment concernant la résidentialisation. C'est-à-dire, concrètement, hein, on vit quelque part, alors plutôt dans les quartiers populaires, et donc on est en HLM, il y a une dalle, parce que c'est un ancien parking. Ce que je décris, alors ça existe quelque part, mais je pense que c'est assez généralisable au quartier populaire en France. Et donc, c'est un ancien parking, et plutôt que de déminéraliser cette dalle, parce qu'il fait, donc on est début juillet, qui fait des températures qu'on connaissait en 2022 notamment, donc il fait une chaleur irrespirable, je veux dire, l'air est brûlant, quoi. En fait, les autorités se disent non, c'est pas ce qu'on va faire, on va pas déminéraliser le sol, on va, il y a un parc en face, on va construire un mur entre la dalle et le parc, en fait. Et donc là où les enfants, en fait, jouaient sur la dalle, mais aussi avaient accès au parc. Et d'ailleurs, ce parc, y jouaient les enfants du quartier populaire, mais également les enfants du quartier pavillonnaire à côté. Donc c'est une sorte de, j'aime pas l'expression, mais de mixité sociale, on va dire. Là, les autorités décident donc d'ériger ce mur. Et alors, c'est en face de chez moi. Donc, alors, j'étais en train d'écrire le livre, ils sont tombés sur un os, quoi. Alors j'ai dit, mais justement, je parle d'emmurement, donc vous allez voir. Mais je veux dire, ils construisent un mur, c'est-à-dire que... alors, nous, ça nous choque en tant qu'adultes, mais vraiment, je me suis mise à la place de mes enfants, donc mes deux enfants. C'est-à-dire que pour nous, déjà, un mur, c'est imposant, quoi. C'est massif. Là, c'est vraiment un mur de haine. Parce que quand vous posez la question de savoir, mais pourquoi ce mur? Quelle est sa fonction? Je veux dire, vous séparez des enfants de la possibilité d'être dans la nature, dans un espace vert. Et là, on va vous répondre avec des arguments de haine. C'est contre les Roms qui sont dans le parc. Donc, c'est pour votre sécurité. Et donc, c'est toute l'idéologie sécuritaire raciste. C'est contre les dealers du quartier. Dans le quartier pavillonnaire à côté, c'est ouvert et pourtant, il n'y a pas de dealers. Donc, ça n'a rien à voir. C'est même le contraire, en fait. Il faut pouvoir occuper l'espace politiquement, pour pouvoir y prendre de la place dans cet espace, pour qu'il passe cette violence-là, parce que je considère que, oui, les trafics de drogue, c'est une violence, y compris pour les enfants. Mais je veux dire, on va, comme ça, argumenter, donc, encore une fois, avec cette idéologie sécuritaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, en fait, comment on veut contraindre l'enfant et le corps de l'enfant, en fait. C'est-à-dire que, pour que l'enfant puisse avoir accès au parc, en fait, ce que nous expliquaient donc ceux qui étaient à l'initiative de ce mur, c'est que l'enfant doit aller chercher un adulte. Déjà, donc l'enfant ne circule pas comme j'imagine beaucoup de personnes ici quand on était petite. Je veux dire, on pouvait aller dehors, on pouvait jouer dehors. Et ça, c'est quelque chose de documenté, hein, le fait que les enfants passent moins de temps dehors et ils sont quasiment jamais non accompagnés. Il y a toujours besoin d'un adulte avec l'enfant, quoi. L'enfant est considéré comme, voilà, devant être sous contrôle. Donc déjà, il doit aller chercher l'adulte pour sortir. Et il y a un pass, en fait. Donc, il faut passer le portique et c'est vidéosurveillé. Parce que c'est toute la mode en ce moment de la résidentialisation. C'est que ça s'accompagne de portiques, de codes, de digicodes et de vidéosurveillance. Et il faut voir ce que ça produit chez l'enfant, en fait. Comment ça le contraint. Alors, comment ça l'habitue à l'idée de tout petit. Donc dès l'âge, voilà, moi, mon fils, par exemple, il a 7 ans. Tout petit, voilà. C'est quand je veux jouer avec mes copains, mes copines. En fait, il faut que j'aille chercher un adulte d'abord. Il faut que je voilà, il y a un badge. Donc ça doit être, ça doit passer par la technique en fait, par quelque chose de technologique, de bon. Et en plus, je suis surveillée en fait. C'est-à-dire que mes gestes, mes mouvements, ma circulation dans l'espace public en fait sont sous contrôle. Et à ça en fait, j'ai voulu en fait. Effectivement un conte où en fait il y a une autre manière de circuler. Donc il y a cette histoire de, bon, je spoil pas du tout, hein, de toute façon c'est une toute petite histoire, hein, c'est pas, le livre ne se réduit pas à ce conte, hein, j'ai vraiment voulu m'essayer à quelque chose en fait. Mais par exemple les enfants, bah, alors là pour le coup en plus j'ai voulu la faire à l'envers parce que ils sautent de caméra en caméra et les caméras ont été cachées dans les nuages, et donc c'est aussi une manière de dire aux enfants, voilà, mais en fait on va l'affaire à l'envers, justement, avec ces histoires de caméras, on va les utiliser, donc, parce que la technique en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est ce qu'on en fait. Donc bah là, ça va servir à s'échapper, en fait, et aller rejoindre la mer et aller rêver à autre chose. Et c'était ça, c'était d'essayer de montrer qu'on, voilà, nos enfants petits, en fait, leur donner à voir une autre manière d'envisager le monde, en fait, et d'y circuler. Et oui, ça, je pense que c'est urgent. je le fais moi, mais je pense qu'on devrait tous le faire, en fait. C'est apprendre aux enfants, en fait, que ce sont des êtres libres et que c'est pas parce que ce sont des enfants, en fait, qu'ils doivent être sous contrôle. J'essaie de montrer aussi à quel point, si vraiment on veut les protéger, bah, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent s'émanciper. Je veux dire, pour les protéger, on va les emmurer, on va mettre de la vidéosurveillance. Ça, c'est pas protéger pour moi, c'est contrôler, en fait. C'est contrôler les corps et c'est pour moi de l'ordre de la domination. Moi, je suis un peu radicale là-dessus, hein, mais c'est de la domination d'adultes sur enfants, en fait, et y compris nos propres enfants. Et donc, oui, c'était vraiment une manière de faire éclater ça, en fait, de dire, voilà, il faut faire autre chose et attention, il ne s'agit pas simplement de discussion d'adultes. Nos enfants grandissent, en fait, et donc c'est dès le plus jeune âge qu'il faut envisager autre chose.
Mais c'est ça, parce que c'était déjà l'une des grandes conclusions de la puissance des mères que l'on retrouve ici dans, pour une écologie pirate, c'est de penser, en fait, l'avenir par ces enfants qui ont des vies absolument pas spontanées, en fait. Mmh. La spontanéité de vivre, qui est quand même quelque chose d'assez constitutif normalement de l'enfance, est complètement effacée, réduite par les contrôles et la violence, en fait. Ça, tu t'en parlais d'autant plus dans La puissance des mères, notamment face aux petits garçons, aux jeunes hommes, etc. Mmh. Et de toujours se rappeler qu'en fait, nos combats actuels sont pour les générations à venir, ou en tout cas les jeunes d'aujourd'hui. On entend bien depuis le début, en fait, que tu pars des quartiers populaires, hein, et que tu vas, en fait, dans toute la première partie du livre, faire un état, en fait, de ces quartiers populaires, mais dans le sens de nous rappeler comment ils ont été construits, qui y vit, et dans quelles conditions, surtout. Mmh. Et de comment... Et on l'a bien entendu dans ce que tu disais avant, il y a quelque chose qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre, toujours et systématiquement au profit, en fait, d'une classe supérieure, blanche, etc., avec ces fameux quartiers pavillonnaires qui arrivent en proximité, ou ces éco-quartiers voilà, qui sont construits sur les espaces encore disponibles dans ces quartiers populaires. C'est quoi un quartier populaire, en fait ?
Alors, un quartier populaire, c'est un territoire et se définit par rapport à d'autres territoires. C'est ça qui est important, en fait. Et ça, on le voit peu. Moi-même, en fait, c'est assez récent, en fait, que je vois ça. J'ai été amenée à faire des travaux de recherche au Maroc. Voilà, je m'intéressais étudiante à la question de la gouvernance des programmes d'ajustement structurel, notamment en Afrique. Voilà, j'ai fait facile, je suis partie au Maroc. Et avant de partir au Maroc, mon directeur de thèse, et je m'en souviens très bien, m'a dit, alors attention, tu vas arriver à Casablanca et tu verras d'un arrêt de bus à l'autre... C'est un autre monde, en fait. On a deux mondes différents. Donc, et effectivement, vous allez là, à l'époque, hein, parce que c'est il y a quand même longtemps, voilà, il y a des quartiers très riches. Voilà, où on a des, à l'époque, il y avait des limousines, mais ça n'existe plus, j'ai l'impression des limousines. Mais il y avait beaucoup de limousines avec, puis alors, des Saoudiens, vraiment la caricature, quoi, et puis des hôtels de luxe, etc. Et c'est vrai que vous trompez d'arrêt de bus, vous êtes à l'arrêt de bus d'à côté, et là, c'est bidonville classique, avec des enfants qui travaillent, une chaleur étouffante, c'était l'été, etc., etc. Et donc, effectivement, on a affaire à deux mondes et c'est particulièrement choquant, en tout cas spectaculaire, parce que ce sont deux mondes côte à côte, en fait, qui sont limitrophes. Et en réalité, on a la même chose ici, sauf que on ne nous invite jamais à regarder ça. C'est-à-dire que le quartier populaire va être soit analysé en tant que, vu en tant que tel. Donc la banlieue, y compris d'ailleurs dans un propos progressiste, hein, pour dire « Ah là là, c'est dur, la banlieue, etc. » Mais ça va être la banlieue en tant que telle, mais qui ne sera pas comparée avec le territoire qui est juste à côté. Ou alors, parfois, c'est la banlieue par rapport au pays d'origine. Et en fait, ce qui est sous-entendu là, c'est « Bon, c'est vrai que c'est dur, etc. C'est pas très beau, ces territoires-là, mais c'est quand même mieux que s'ils étaient restés au pays. Ils n'auraient même pas accès à l'eau potable, ils n'auraient pas accès à l'école gratuite, etc. » Enfin, tout ce qu'on dit sur « Oui, mais quand même, le fait que vous ayez été accueillis en France, quand même, ça vous a changé la vie, c'est bien mieux pour vous, etc. » Donc, c'est bon, ne critiquez pas trop. Donc, c'est plutôt donc une comparaison, les territoires ici, les territoires là-bas. Mais c'est vrai qu'on ne compare pas, en fait, ce qui devrait être considéré comme spectaculaire, c'est-à-dire effectivement, quartier populaire, quartier pavillonnaire, où on a affaire à deux mondes. Un monde libre et un monde qui travaille pour que ce monde soit libre et qui travaille au sens littéral. C'est-à-dire qu'on a affaire, et on l'a vu aussi pendant la période Covid, toute une population, en fait, qui circule de manière à ce qu'une autre population puisse faire du yoga, avoir son petit livre livré, avoir son petit... Et qui puisse vivre son confinement quand même, dans le... voilà, qui puisse le comprendre, réfléchir comme ça à sa liberté, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça ce qui s'est passé sur cette période-là, mais en réalité, c'est ce qui se passe tout le temps. Puisqu'effectivement, les quartiers populaires ont été aménagés, d'ailleurs, pas uniquement pour les populations descendantes de l'immigration postcoloniale, mais en réalité, sont des territoires où vivent les classes populaires, de manière à conduire une population d'un point A à un point B, et le point B étant le travail. Voilà, c'est, voilà, il faut que vous soyez utile. Et donc, la ville doit être utile. Et c'est vrai que vous regardez les quartiers populaires, il n'y a pas vraiment d'espace où on peut jouer, où on peut contempler, où on, par exemple, la contemplation du lever et du coucher du soleil. Moi, je me suis rendu compte, avec mon fils de 7 ans, qu'il ne voyait le soleil qu'entre 11h et 15h, de là où on vit, entre 11h et 15h. Je veux dire, c'est dur quand même de se dire ça, de se dire qu'en fait, il ne voit jamais là où il est. Et encore une fois, on n'a pas de maison de campagne, donc il n'y a pas cette possibilité de s'échapper, d'aller admirer ça ailleurs. Il n'y a pas de lever et de coucher du soleil. Donc, on a vraiment affaire à des espaces où, en fait, les humains sont, et d'ailleurs pas que les humains, je parle aussi de ces bergeries là qu'on nous vend comme l'écologie populaire et tout, mais donc le vivant est réduit à son utilité. Voilà, son utilité pour une autre population, son utilité pour le capital, pour les entreprises, etc. Ça renvoie à l'utilité des personnes non blanches, pas simplement dans les quartiers populaires, mais vous avez vu, là, il y a un projet de loi là, qui est en train de se préparer, donc la loi immigration à nouveau, de Gérald Darmanin, et il réduit en fait les personnes migrantes donc il parle de saisonniers par exemple, bah, c'est horrible quoi, saisonnier en fait, réduit comme ça à l'utilisation selon telle ou telle saison, l'utilité pour les métiers, enfin dans les secteurs d'activité où les métiers sont en tension ou en pénurie, je me souviens plus, tension ou pénurie, bon. Voilà. Et c'est vraiment voilà, la circulation de ces personnes-là, c'est-à-dire d'un point A à un point B, le point B n'étant pas forcément défini, je veux dire, on ne sait pas forcément où on va quand on sort. Cette circulation doit être complètement définie, contrôlée par, bon, pour le dire vite, le système colonial capitaliste tel que j'essaie de le définir un petit peu dans le livre. C'est-à-dire que voilà, tout est réduit à la force de travail, tout est réduit à l'utilité. Et c'est comme ça que sont construits les quartiers populaires. Et ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que depuis les années 90 et encore plus depuis 2015, en plus, il y a le contrôle policier qui devient de plus en plus présent. Alors, pas en termes de nombre d'uniformes, parce que numériquement, en fait, en réalité, il y a moins de policiers, c'est vrai. Mais parce que la police, ça peut paraître bizarre, mais c'est un service public répressif, mais c'est un service public. Et donc, un État libéral, les services publics, voilà, il réduit les moyens, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'il le fasse moins pour la police que pour l'école, par exemple. Donc, effectivement, il y a moins d'uniformes. Mais le quadrillage policier, lui, est beaucoup plus important avec, je l'ai dit, la vidéosurveillance, les drones, etc. Et c'est ça qui est... inquiétant en fait, c'est de voir que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, y a une crise climatique, il y a une urgence climatique, et il y a, on l'a vu en 2022, la possibilité que l'extrême droite accède au pouvoir, quand on y pense en fait, je trouve qu'on y pense de manière un peu trop tranquille, je pense qu'il y a cette idée que l'extrême droite au pouvoir va devoir tout réinventer, va devoir mettre en place des dispositifs, un état d'extrême droite. Mais c'est ne pas prendre en considération le fait que des dispositifs existent déjà, qui ne disent pas leur nom. Typiquement, la gentrification, tu as dit tout à l'heure, ces écoquartiers qui prennent la place disponible dans les quartiers populaires. Non, pas la place disponible, la place des habitants des quartiers populaires. Je veux dire, la gentrification, c'est tu pousses en fait la population pauvre, tu la pousses vers l'extérieur, tu prends sa place, tu prends sa terre en fait. C'est vraiment un projet colonial. Alors évidemment, comme ça passe par le prix de l'immobilier, par des choses très techniques en fait, on a l'impression que c'est pas un projet colonial, c'est pas la colonisation de l'Afrique, c'est pas. Mais si, concrètement, objectivement, c'est une population qui vient parce qu'elle a besoin de plus de place, un jardin pour les enfants, etc. Ça, qui vient prendre la place d'une population qu'elle considère comme étant sans terre, pas individu par individu. Hein. Évidemment, il n'y a pas de volonté individuelle là-dedans, mais ce sont des mécanismes généraux. Mais cette population qui est considérée comme n'étant pas chez elle, et je parlais de 2022, c'est tout le débat qu'on a eu l'année dernière à des heures de grande écoute sur mais ces gens-là, ils n'arrivent pas à s'intégrer, ils sont trop musulmans, trop... voilà, l'Europe est blanche et chrétienne, et puis alors cette histoire de grand remplacement, etc., de remigration, donc de déportation, est-ce que oui ou non, on va les renvoyer dans leur pays d'origine, réel ou supposé, et bon, bah, l'extrême droite, elle fait son boulot d'extrême droite, donc elle dit oui, il faut les remigrer, il faut les déporter, il faut les virer, parce que voilà, on... c'est un problème, c'est un danger. Et alors, ce qu'on peut qualifier de gauche, le camp progressiste, en fait, en réalité, a utilisé le même logiciel. C'est-à-dire, a dit non, il ne faut pas les virer, ces gens-là, parce qu'ils sont utiles. Et on les entend, enfin, regardez, hein, encore jusqu'à aujourd'hui, quand la gauche s'exprime sur, concernant les personnes migrantes, notamment, mais pour moi, c'est l'ensemble de la population non-blanche, en fait, qui est concernée. Mais concernant les personnes migrantes, l'argument ultime de la gauche, donc vraiment où elle a l'impression d'être à l'avant-garde de tout, quoi, vraiment, c'est la radicalité qui s'exprime, c'est de dire, non, mais sans ces personnes-là, le bâtiment s'effondre, la restauration s'effondre, l'hôpital public s'effondre, je veux dire. Et donc, c'est un logiciel raciste. C'est sous-humaniser cette population, je veux dire. C'est dire, en fait, que cette population n'a de légitimité à exister ici, que dès lors qu'elle est utile au capital, donc à telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur d'activité. Et ça montre à quel point on est dans un moment dangereux, parce que qui dit utilité dit inutilité. Je veux dire, si on est sur des calculs comptables, voilà, mais toi, oui, t'es utile parce que tu apportes sur le bâtiment, etc. Mais demain, tu peux devenir tout à coup pas si utile que ça, parce que tu coûtes trop à la sécurité sociale, à la CAF, etc. Enfin voilà, la comptabilité, elle n'est pas forcément favorable aux personnes migrantes, elle pourrait devenir défavorable. Et c'est ce risque de basculement-là, en fait, que je pointe du doigt. Et donc, oui, c'est pas simplement faire l'analyse, en fait, d'une inégalité, d'une injustice entre quartier populaire, quartier pavillonnaire, ou dire à quel point, en fait, il y a des injustices, des oppressions dans les quartiers populaires. Il y a aussi dans le livre, vraiment, une volonté de ma part, en fait, de dire, mais il faut vraiment qu'on se réveille, en fait, et que dans cette classe moyenne supérieure blanche, effectivement, que je dis dans le livre, enfin, elle est signalée, cette classe moyenne supérieure blanche. Elle est presque homogénéisée, en fait. Alors, parce qu'on me dit, oui, mais classe moyenne et classe supérieure, c'est pas la même chose. L'écologie institutionnelle, le mouvement climat, c'est pas la même chose. Mais du point de vue des quartiers populaires, si. Tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que, parce que dès lors que dans les quartiers populaires, il y a quelque chose de très spécifique, c'est pas de pouvoir politique, être considéré comme sans terre et occuper un sous-marché du travail, oui. Je veux dire, ce monde-là, les classes moyennes supérieures blanches, ben en fait, il y a du pouvoir politique, ce sont des populations qui sont considérées comme étant chez elles n'occupent pas ce sous-marché du travail, mais un marché où il va y avoir plus de CDI, etc., c'est-à-dire tout ce qu'on connaît sur le marché du travail classique. Et donc, oui, c'est surtout pour dire, est-ce que c'est pas le moment, là, aujourd'hui, de presque d'assumer, de cliver, en fait, de dire, voilà, est-ce qu'on peut pas avoir une nouvelle fracture, une nouvelle manière de se positionner sur le champ politique? C'est de dire, voilà, d'un côté, les personnes qui sont pour l'ordre social, l'ordre établi, c'est-à-dire qui considèrent que la hiérarchisation raciale des individus, la sous-humanisation d'une partie de l'humanité, et quand bien même cette sous-humanisation d'une partie de l'humanité conduit au désastre climatique, parce que j'essaie de montrer que les deux sont liés, en fait, c'est parce que le système capitaliste sous-humanise, en fait, une partie de l'humanité qu'il peut exploiter la terre. En disant, mais voilà, ces gens sont sans terre, ils n'ont pas de pouvoir politique. Et donc, évidemment, que la terre est d'autant plus exploitable. On peut d'autant plus en extraire tout ce dont le système capitaliste a besoin. Et donc, voilà. Et quand bien même il y aurait cette articulation à faire entre lutte écologiste et lutte anticoloniale, voilà, il y a toute une partie de la population, c'est vrai, qui considère que elle va s'en sortir. Et que l'objectif, c'est simplement des objectifs d'adaptation et d'adaptabilité, c'est-à-dire il va y avoir des ravages climatiques, plutôt plus au sud de la Méditerranée qu'au nord. Bon, c'est plus pour l'Afrique que pour l'Europe, alors même, et ça on le sait, que c'est plutôt l'Europe qui est à l'origine, en fait, de ce désastre climatique. Bon, voilà, il faut qu'on fasse nos petits calculs avec la géo-ingénierie, on le sait, avec des idées comme ça, sur comment, en fait, on va avoir le moins de conséquences possibles et on va maintenir un certain niveau de confort. Voilà, on va être bien, on va être libre, on va bien manger, on va bien respirer, on va avoir notre petit panier à map, etc. Donc, voilà, on va se ménager tout ça et tant pis pour le reste. Ça, c'est vrai, et ça, c'est vrai que je le décris de manière assez radical, au sens où je dis les choses, en fait, voilà, pour cette partie. Mais il y a et ça, c'est presque de l'ordre de la foi, en fait. Il y a une croyance chez moi, cette idée que En fait, y compris dans la classe moyenne supérieure blanche, il y a toute une partie aussi de la population qui ne veut pas de ce monde-là, et quand bien même ses enfants y trouveraient confort, en fait. Un truc où, bah, je le disais déjà dans La puissance des mères, c'est-à-dire, bah, pour moi, ok, ce monde nauséabond, en fait, bah, voilà, moi ça me va et j'y vis plutôt bien. Par contre, vraiment, ce monde-là pour mes enfants, c'est-à-dire que pour vivre, en fait, ils soient obligés de marcher sur des cadavres, j'en veux pas, en fait. J'aimerais vraiment réfléchir à autre chose, essayer de penser à, autrement, en fait, et voir autrement le monde et notre avenir à tous, quoi. Et c'est, je trouve là que c'est une perspective maligne, pour reprendre le mot de... C'est-à-dire, bah voilà, c'est comment, en fait, on évite que, voilà, ces classes moyennes supérieures basculent, en fait, dans l'extrême droite. Encore une fois, avec des dispositifs qui existent déjà, avec des choses voilà, auxquelles on est déjà habitué, à la gentrification, mais la résidentialisation, c'est-à-dire l'emmurement et la ségrégation, la séparation qui existe entre les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires. Hein. Par exemple, vous avez vu, il y a de plus en plus de sauf-riverains. C'est même pas légal, en plus, t'as envie d'aller défoncer ce truc-là, parce qu'en fait, il n'y a même pas d'autorisation préfectorale, mais c'est vraiment une manière de dire « vous n'avez rien à faire ici ». Nous, on a affaire dans votre quartier parce que c'est là que, selon les décharges, c'est là que sont les entreprises, c'est là que sont le trafic routier, les échangeurs autoroutiers, etc. Mais par contre, chez nous, nos enfants ont école demain, donc il ne faudrait pas faire de bruit, il faut que ça reste calme, propre, etc. Donc ça, c'est vraiment de la ségrégation. Et il faut dire, voilà, ça va donner quoi ce truc-là si l'extrême droite arrive au pouvoir? Je veux dire, ça, c'est à disposition. La police aussi. Et on a quand même affaire à une institution qui contrôle de manière raciste la population et qui répète donc à cette population qui est sous-humanisée, vous n'êtes pas ici chez vous, vous devez me montrer vos papiers, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas légitime. Tout ça sera à disposition de l'extrême droite. Et donc voilà, ça peut être demain. Franchement, moi, 2022, j'étais à deux doigts de me dire bon, bah, ça va passer Le Pen, quoi. Ce qui est affolant, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui disent encore Macron pire que Le Pen. Je veux dire, ça dit quand même quelque chose sur la normalisation de l'extrême droite en France. Il se trouve qu'en plus, on n'est pas dans un contexte favorable européen. Il y a une montée de l'extrême droite, y compris d'ailleurs de l'écologie d'extrême droite. Moi, j'avais participé, j'en parle rapidement dans le livre, mais à un colloque universitaire en Suède, l'université de Lund. C'est Andreas Malm qui est un géographe qui avait organisé en fait un truc qui s'appelait écologie extrême droite. Et c'était il y a quelques années, et c'est là que j'ai découvert la littérature de l'extrême droite concernant les enjeux climatiques. Et c'est une littérature, je le dis entre nous, bon, c'est enregistré, comment je fais ? Non, c'est vraiment incroyablement bien dit et bien écrit sur la question de la terre et de la dépossession de la terre et de la nécessité de se réapproprier la terre. Et franchement, très séduisant. J'ai appris plein de trucs. Et c'est voilà, des militants, des élus, des penseurs d'extrême droite qui parlent très très bien de la terre, en fait. Et donc l'extrême droite a quelque chose à dire sur le climat. Je veux dire, l'heure du climato-scepticisme, ça c'est terminé. L'extrême droite, elle est convaincue de l'urgence climatique. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle est convaincue de l'urgence climatique, et notamment au sud de la Méditerranée, qu'elle insiste autant sur le mur de haine que constitue aujourd'hui la Méditerranée pour empêcher, en fait, ces hordes de barbares et de sauvages déferler, non blancs, évidemment, parce que on le sait, l'extrême droite, elle est plutôt nataliste et plutôt... Ben, mais là, ça va pas, là, ce sont des non-blancs, donc c'est le grand remplacement. Et donc, elle a quelque chose à dire sur la question de la terre, donc c'est toute la question de l'espace vital, et ça, on connaît en Europe, sur la question des migrations, sur la question de l'aménagement du territoire. Voilà, c'est très, très, très inquiétant. Je veux dire, il y a déjà des choses qui sont mises en place, en fait. Donc, il ne s'agit pas pour l'extrême droite de tout réinventer une fois au pouvoir, si jamais elle accède au pouvoir. Et donc, voilà, le livre, c'est aussi pour ça, en fait. C'est aussi une manière de dire, voilà, stratégiquement, parce qu'on n'est pas plus bête que l'extrême droite, en fait, on peut aussi avoir des stratégies et on peut aussi penser à long terme. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour donner envie aux nôtres, donc aux nôtres au sens sur nos territoires, de se battre contre ça, de ne pas se résigner à ça. Je veux dire, il n'y a pas de fatalité à cette extrême droite au pouvoir. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre, en fait, pour empêcher ça et pour donner à voir quelque chose de plus enthousiasmant, quoi. Et parce que tu parlais de l'utopie. Je ne sais pas si tu as utilisé ce terme, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris quand tu disais, voilà, un monde comme ça qu'on donnerait à voir. C'est la question de l'utopie, donc c'est le troisième bouquin. Quelle utopie ? Mais l'utopie, je vois bien que ça ne marche pas. Parce que, enfin, ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que moi, je vois bien qu'il y a beaucoup de... Les utopies, on en a tous et toutes. Il y a plein de choses, en fait, qui sont très belles, d'un autre monde. Et de plus en plus, hein, y a aussi des choses qui nous donnent à voir une autre manière de vivre que cette manière-là qu'on a de vivre, que la société de consommation. Donc, l'utopie, je trouve que ce n'est pas là-dessus qu'on pêche tant que ça. C'est plutôt comment on y arrive, en fait. C'est voilà, comment se passe du système capitaliste, par exemple. Parce que le système capitaliste, il est super, hein. Il est vraiment dans le détail, du détail, du détail. Il est partout et il fait fonctionner un monde à 11 milliards prochainement de personnes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a, voilà, comment on fait en sorte qu'on se passe de tout ce qui est colonial, en fait, de tout ce qui est raciste, de tout ce qui est patriarcal, de tout ce qui est dans notre quotidien. Comment on fait, en fait, quoi. Alors, il y a la question de la subsistance, mais ça tient deux minutes. Je veux dire, alors, je m'étais renseignée à un moment donné sur, d'ailleurs, au moment du Covid, sur autonomie territoriale. Et on dit, ce monde-là, on n'en veut plus, en fait, on veut rester, voilà. Nous, on a d'autres... d'autres ambitions pour nos enfants. Et donc, par exemple, l'extrême droite au pouvoir, des suprémacistes blancs au pouvoir, on ne veut pas, en fait. On a le droit, c'est même constitutionnel, en fait. Et donc, nous, on fait sécession. Un peu, alors, du coup, l'histoire de la piraterie, elle est intéressante sur la manière d'arriver à l'utopie, c'est la mutinerie, en fait. Donc voilà, mutinerie, on décide de dire au revoir, salam, j'allais dire, salam, salam. On fait autrement. Mais on tient deux minutes, en fait. Je veux dire, ne serait-ce que pour les questions de survie, de manger. Juste manger, en fait, ce qu'on mange, étant donné, en fait, le nombre de personnes, je veux dire, qu'il faut nourrir, je veux dire, ça ne tient pas. Et donc, oui, c'est ces questions-là, en fait, qu'il faut... alors, je m'y essaye vraiment très rapidement dans le livre, parce que, alors, je parle de choses... je trouve assez réjouissante la Méditerranée comme espace autonome, la ville aux enfants, la libération animale, etc. Donc autant de choses qui pourraient s'apparenter à quelque chose d'un peu utopique, en fait. Et c'est vrai, c'est vraiment de l'imaginaire. Hein. Bon, la Méditerranée qui serait libérée, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais en même temps, voilà, il y a SOS Méditerranée, par exemple. Moi, je considère que ce sont des pirates et qu'ils libèrent, en fait, cette terre qu'est la Méditerranée. Mais il faut vraiment, voilà, se mettre à réfléchir à... comment on fait concrètement, en fait, et comment on prend chaque étape, chaque... voilà, la question de la propriété privée, la question des impôts, la question... enfin, toutes les questions, en fait, que... La question culturelle, le rêve américain, en fait. Toutes les questions que prend en charge le système colonial capitaliste, comment nous, on est en capacité de proposer autre chose d'équivalent, en fait.
Quand on parle écologie, on parle de terre. Enfin, moi, tout de suite, en fait, c'est vraiment... la planète, en fait, quelque chose du vivant, etc. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était aussi de nous expliquer, et tu l'as déjà dit un petit peu, mais en fait, c'est toute une population à qui on apprend que cette terre ne leur appartient pas, qu'ils ne sont pas en effet chez eux, qu'ils doivent retourner quelque part ce truc-là comme ça, qu'on balance avec généralement beaucoup de haine, en fait, voilà. Et... cette réappropriation-là de la terre comme étant une des solutions, c'est de dire à chaque personne, mais en fait, tu es vraiment là. En fait, ça passe par plein de possibilités. Et une des choses, voilà, que j'ai apprises, que je ne savais pas, c'est par rapport aux enterrements. Et ça m'a beaucoup choquée, en fait, parce que je me suis dit, et tout ton déroulé de pensée nous y amène aussi, mais de se dire, en fait, ce sont des personnes qui savent d'avance que si elles ne sont pas ramenées au pays, pour l'expression, elles ne seront pas enterrées comme elles le souhaitent.
Oui, absolument.
C'est d'une extrême violence, en fait.
Mais c'est la question des cimetières musulmans, et donc, ou alors des carrés musulmans, parce que les cimetières, il n'y en a pas, en fait, en France. Il n'y a pas de cimetières musulmans. Parce qu'effectivement, comme dans n'importe quelle religion, il y a une manière d'enterrer le corps, il y a une manière de respecter la dignité du corps, y compris... lorsque l'individu est mort. Et ces conditions-là ne sont pas respectées en France. Voilà, comme ça, c'est réglé. Je veux dire, il y a... Bon, après, c'est technique, hein, mais il y a une profondeur, en fait, pour être enterré. Il n'y a pas de cercueil, etc., en islam. Oui, je parle de l'islam parce que c'est la religion qui est majoritaire dans certaines grandes villes populaires en France. Et même pour ces villes populaires-là, même pour les populations qui vivent, il n'y a pas de carré musulman. C'est ça que j'ai voulu dire, en fait. C'est-à-dire, vraiment dire à quel point... pendant la période de confinement, donc toujours 2020, mais il y a quand même beaucoup de choses, hein, qui viennent de là, c'est-à-dire qui a exacerbé, en fait, des problématiques qu'on avait déjà en tête, que j'avais déjà en tête. Cette phrase, en fait, que j'entendais beaucoup pendant le confinement, Et pendant cette période où les pays d'origine, donc Sénégal, Mali, Maroc, Algérie, Tunisie, enfin, avaient fermé les frontières en disant oh, ça venait de l'Europe, quoi. Je veux dire, la maladie venait de l'Europe, là. Du coup, c'était vraiment pendant plusieurs mois, les frontières étaient fermées. Et j'entendais beaucoup de personnes immigrées plutôt âgées qui avaient peur de mourir. On sait qu'il y a une surmortalité Covid de l'ordre de 300% hein, chez les hommes non blancs. Et ça, c'est les chiffres de la Seine-Saint-Denis. Et effectivement, et ça, on a pu l'observer, hein, c'est dans les foyers Sonacotra, etc. Et en fait, cette phrase, c'est plutôt... parce que quand même, alors du coup, il m'est arrivé une fois ou deux de dire, mais les personnes qui meurent, on va les enterrer ici. Et les personnes répondaient, une personne en particulier, plutôt mourir que d'être enterré ici. Et alors, c'est ce qui a amené, en fait, des familles à... Et ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas, c'est pas documenté, à mettre dans les réfrigérateurs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les conteneurs à Rungis, qui, normalement, c'est pour la viande. En fait, qui ont congelé les corps, en fait, de leurs proches, en attendant, en fait, que la frontière s'ouvre avec le Maroc, le Mali, etc. Et donc, ils payaient, alors, j'ai retenu 200 euros par semaine. Mais je crois que c'est... Et semaine après semaine, ça faisait des budgets qui devenaient énormes, quoi. Enfin, mais vraiment, les familles ne lâchaient pas. Et elles payaient pour que le corps soit enterré là-bas. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que nous, habitants des quartiers populaires, population non blanche, population musulmane, tellement pas considérés comme étant chez nous ici, en fait, qu'une fois pas utile, puisqu'on est réduit à notre utilité, donc t'es mort. Alors là, t'es pas utile. Je veux dire, ton corps, on peut vraiment rien en faire. Parce que quand t'es vieux, tu peux quand même consommer, même quand tu travailles pas. Ton corps peut être utile à consommer. Là, t'es mort. Ou t'es morte. Et donc, tu repars. En fait. C'est vraiment, t'étais là, tant que tu travaillais. Mais là, tu repars. Et donc, oui, il n'y a pas, du coup, de réflexion sur l'idée que être chez soi quelque part, en fait, c'est avoir la tranquillité d'esprit de se dire qu'on va être enterré là, de manière ne serait-ce que pour que les enfants, les petits-enfants puissent venir se recueillir, en fait. Il y a vraiment un truc là qui est universel, en fait. On meurt quelque part et la famille vient se recueillir. Là, il y a vraiment tout un système. Mais alors moi, j'ai regardé dans le détail les systèmes de caisses de solidarité, les systèmes d'assurance. Par exemple, pour le Maroc, c'est les assurances. Pour que les personnes puissent être enterrées au pays. Et alors, c'est un vrai débat dans les familles. Et parfois, c'est vraiment des débats qui sont assez dramatiques. Parce que les familles mixtes, par exemple, avec une partie musulmane, l'autre pas, couple mixte, je veux dire, qui ont des enfants, il arrive que des personnes soient enterrées ici, alors que leur volonté, c'était d'être enterrées là-bas, et il arrive que des personnes soient enterrées là-bas, alors que leur volonté, c'était d'enterrer ici. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, quoi? Ne pas être enterré là où on aurait voulu reposer en paix. Et ça, c'est vrai que c'est ça participe, pour moi, d'une oppression raciste, islamophobe, etc. Mais ce que j'ai voulu dire aussi, c'est le petit dialogue effectivement entre le père et la fille, où j'ai essayé d'amener un peu plus de subtilité dans le propos plus politique ensuite, c'est le fait que, je pense, jusqu'à ma génération, il y avait cette idée que c'était presque une trahison de se dire d'ici, en fait. Il y avait presque une trahison politique. C'est-à-dire, il n'y a aucune fierté à être d'ici. Il n'y a aucune fierté à se dire français. Il n'y a aucune fierté dans le drapeau français, etc. Et oui, de fait, il y a une exotisation, en fait, hein, presque une folklorisation du pays d'origine où on n'a pas vécu. Et ça a tenu avec nos parents, nos grands-parents, mais jusqu'à, je pense, ma génération. Mais je pense qu'il est en train de se passer un truc. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a d'autres endroits où c'est plutôt minoritaire, ce que je dis, dans les quartiers. Là, pour le coup, je crois que c'est vraiment majoritaire. C'est-à-dire le besoin, y compris pour des gens comme moi, comme nous, où vraiment, nous, on n'est pas d'ici. Moi, je suis pas née en France, par exemple, et jusqu'à là, aujourd'hui, c'est très bien. Je suis très, très contente d'être née au Maroc. J'en fais presque une fierté, en fait. Et j'en fais une fierté, pardon, j'enlève le presque. Mais il arrive vraiment un moment, je crois, là, où on a besoin de dire à nos enfants. Donc, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. En fait, vous êtes d'ici. Et on se fait avoir, en fait, avec cette idée que être d'ici, c'est une trahison. Parce qu'on a tous besoin de terre. Il faut assumer, nous aussi, on a besoin d'une terre. Donc, le fait de dire, on n'est ni d'ici ni de là-bas, parce que de fait, on n'est ni d'ici ni de là-bas. C'est-à-dire, c'est pas notre pays non plus, le Maroc, l'Afrique de manière générale, ce n'est pas nos terres. Notre terre, elle est ici. Et on doit comprendre que c'est parce qu'on ne s'ancre pas dans cette terre-là qu'en fait, elle est aussi maltraitée. Et cette terre, si elle est maltraitée, on est maltraité aussi. Et donc, notre sort, notre destin est lié au sort et au destin de cette terre-là. Et donc, même, ne serait-ce que stratégiquement, pour reprendre le côté malin dont tu parlais, oui, c'est de dire à nos enfants, en fait, voilà, il faut s'ancrer, en fait. Vous êtes d'ici, voilà. Et d'ailleurs, l'écologie que je défends, moi, c'est une écologie européenne. C'est pas une écologie africaine. Je dis, il faut regarder vers l'Afrique. Mais j'assume ce côté européen, en fait. Et d'ailleurs, je parle des sigles pour parler des quartiers populaires. Moi, jusqu'à récemment, je parlais de territoire pour les quartiers populaires. Je commence, je crois, à la fin de La puissance des mers à dire, mais jusqu'à quand on va être condamné à parler de territoire, en fait? Pourquoi dans le Jura, ils disent la terre, ils disent le terroir et tout? Mais c'est vrai que quand on parle des banlieues, on parle pas des terres. Bon, c'est vrai que c'est pas une belle terre et qu'elle est bétonnée, qu'on n'a même pas accès à la vraie terre, en fait. Donc, il n'y a même pas de rapport charnel, je veux dire, à la terre. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de s'imaginer une terre. Mais en même temps, c'est une terre aussi, je veux dire, et c'est une terre à défendre aussi. Et donc, oui, il y a un enjeu stratégique et politique, mais il y a aussi un besoin, encore une fois, c'est universel, en fait. On a vraiment besoin de dire à nos gosses, voilà, vous êtes ici chez vous, on ne bougera pas d'ici, on va défendre nos terres, du coup. Je donne l'exemple de Verdragon, donc ce lieu qu'on a. Et c'est vrai que nous, on répétait ça, et je pense que c'est pour ça qu'on a gagné, d'ailleurs, à l'époque, c'est parce qu'on répétait aux autorités, à tous ceux qui voulaient... Je le dis au masculin parce que c'est quand même beaucoup d'hommes. Tous ceux qui voulaient nous, et nous étions des femmes, enfin nous sommes des femmes au front de mer. Il y a, je pense, ouais, quelque chose de très misogyne et sexiste et raciste en fait à dire, mais vous vous dégagez d'ici, allez plutôt préparer le café ou le couscous, ou vous n'avez pas à faire de la politique, je veux dire, voilà, vous avez autre chose à vous occuper. Il y avait une détermination, en fait, qui consistait à dire, voilà, nos enfants, ils sont ici chez eux, on bougera pas d'ici, en fait. Vous pouvez monter, descendre. On est chez nous, ici. Et ça donne une puissance politique, en fait, la Terre. L'ancrage territorial, moi, je le sens, en fait. Et d'ailleurs, j'étais effondrée à l'idée qu'on pouvait en être chassé de ces 963 mètres carrés, comme ils aimaient à le répéter, 963 mètres carrés de trop. Et il fallait pas nous le laisser. Mais oui, parce que tout à coup, le fait d'avoir gagné, d'être resté là, en fait, tout à coup, on se sent chez soi, évidemment, on se sent légitime. Qu'on ne peut se sentir légitime que quand on est chez soi quelque part, quoi. Et oui, ça, c'est vraiment un cheminement, y compris personnel. C'était pas si simple, en fait, de défendre, de se dire d'ici. C'est vraiment, oui, encore une fois, je pense qu'il y a le Covid aussi. Franchement, hein, je pense que ça aussi, je veux dire déjà que nous, où est-ce qu'on va être enterré? Mais nos enfants, ils connaissent rien de nos pays d'origine, en fait. Donc, à un moment donné, oui, il faut qu'ils puissent avoir la tranquillité d'esprit, encore une fois, de se dire, je vais reposer en paix. Pour pouvoir reposer en paix, je vais m'assurer de reposer sur cette terre-là qui est la mienne, quoi.
Tu parlais des sigles juste avant, donc la façon dont les quartiers sont stigmatisés, et tu proposes de les renommer.
C'est les UP, les ZEP, les ZEP+, les quartiers de reconquête républicaine. Bon, ça, c'est le pire. Ça, c'est vraiment le truc assumé, colonial, assumé. Et oui, alors du coup, moi, je dis, mais pourquoi on ne pourrait pas appeler nos terres la vallée des pirates, la montagne des dragons, avec tout cet imaginaire en fait qui est très présent dans les quartiers populaires, les dragons, les pirates. Enfin, j'ai dit que ça faisait partie de mon univers, mais c'est vraiment aussi la culture populaire des quartiers populaires. C'est-à-dire, c'est Bruce Lee, c'est encore une fois Game of Thrones, c'est Tolkien, c'est les jeux vidéo aussi, c'est One Piece, j'ai dit, c'est la culture japonaise, enfin les mangas. Et ouais, du coup, c'est une manière aussi de se sentir chez soi. C'est de renommer, en fait, les lieux.
Je vais terminer par te citer, parce que j'ai trouvé ça génial de lire cette phrase. Le roi des pirates est une reine, et ce sera nous. Voilà. Merci beaucoup, Fatima. Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Fatima Wasak à l'occasion de la parution de son ouvrage « Pour une écologie pirate et nous serons libres » aux éditions La Découverte. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, Résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchi Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.